Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le banquet d'Astérix de la critique où ont pris part Charlotte Lipinska de Vanity Fair, Sophie Avon de Sud-Ouest, Pierre Murat de Télérama et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession. Xavier encore, je le sais, traumatisé par la disparition le 27 novembre dernier de Stephen Hillenburg, qui est le créateur de Bob l'éponge. D'ailleurs, il y a un mail qui est arrivé pour toi, Alice Sévenot. Ce serait sympa que Mylène appelle Xavier pour le consoler. Est-ce que Mylène t'a appelé?
Non, pas un mot, rien, pas un signe. Même pas un battement de paupières. J'aurais tout pris d'elle et rien.
Donc, plus de Bob l'éponge
et... Ah bah bien sûr, si Bob l'éponge continue, il y aura un film en 2020. Et de toute façon, tant que je respirerai, il y aura la mémoire, la trace de Bob l'éponge partout, y compris...
Tu veux dire que Bob l'éponge est immortel?
Mais évidemment qu'il est immortel.
Bien, et Mylène aussi, Farmer.
Ah ça, je le pense de toute façon. Oui, d'accord. Comment elle a si peu changé en 40 ans de carrière?
Je vois que tu t'arranges. On parle ce soir d'une affaire de famille, des confins du monde, de Leto, de Ma mère est folle, de Pupille, de Marche ou crève et d'Astérix. C'est plutôt un bon programme. Les semaines dernières, on a un peu souffert. Je parle des critiques du masque. Là, c'est plutôt sympa. Allez, dans le courrier de la semaine, beaucoup de messages à propos de Girl, de Lucas Daunt pour Christine Fink. Girl a été un grand choc avant ce film. Je ne comprenais pas la souffrance des personnes transidentitaires. J'avais comme un blocage. Lucas Daunt a réussi à me faire ressentir au plus profond de moi leur douleur, leur souffrance, leur détermination. Bonjour Jérôme et mes amours de la critique, nous écrit Franck de Joigny. Une larme a coulé et l'émotion a bouleversé mon âme cinéphile après la séance de Girl. Ce film est extraordinaire sur l'histoire d'un adolescent transgenre. Victor Polster se métamorphose avec grâce en Lara, étrange belle fille blonde de 16 ans. Dans Girl, ajoute Pierre Cusor, l'interprétation de Victor Polster est ahurissante. Un immense acteur est né. Bernard Georges remercie le masque de défendre un film exceptionnel. Girl est un chef-d'œuvre. Et Jérôme, vous avez raison de dire que la Belgique nous apporte de plus en plus de films très intéressants. Olivier Poulain du Havre, je viens enfin de voir Girl. Et en rentrant, je vous ai réécouté en parler au masque tous les cinq avec une justesse et une complémentarité parfaite. Vos paroles sont aussi belles que ce film. Et pour cela, je vous dis merci. Comme en général, on ne reçoit pas des lettres aussi gentilles.
De temps en temps.
Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait du bien de les lire aussi.
Si c'est ton cadeau pour Noël, voilà, merci beaucoup.
À propos des veuves de Steve McQueen, Vincent Bazin a vu un film haletant, carré, qui tient la route pour Elisabeth Hirsch de Paris. Les veuves est en effet un très bon divertissement. Il faudra juste que Monsieur McQueen arrête parfois de se regarder filmer et se limite en termes de travelling circulaire parce qu'au bout d'un moment, ça lasse un peu. Arnaud Sanquer juge que Steve McQueen signe avec les veuves un film de genre féministe ultra efficace. Ça ne débande pas pendant plus de 2 heures et pourtant, je me suis senti, nous dit Arnaud, pousser un clitoris. Et c'est une sensation plutôt agréable. Eh bien, je vous laisse la responsabilité. En revanche, Kevin Brillant de Paris n'en revient pas. Cher Masque, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je refuse d'admettre que tu aies pu trouver des qualités aux veuves de Steve McQueen, grotesque de bout en bout, au moment de ce qui est censé être le retournement scénaristique du film, la grande salle où je l'ai vu a éclaté de rire quand Viola Davis a poussé la porte qu'elle ne devait pas pousser. On n'en sait pas plus. Yann Toulek, qui nous écoute depuis New York, où il habite, dit avoir ri pendant la première heure du film en voyant tous les poncifs du genre poussés aux extrêmes. Il rit beaucoup pendant la scène de la révélation quasi boulevardière où un caniche gratouille une porte mystère. et rit beaucoup moins quand on se rend compte qu'il nous reste encore 1h10 avant d'en finir avec cette farce. Pour Jérôme Duvivier, Les Veuves est loin d'être un mauvais film, mais il faut quand même reconnaître que depuis Les Blues Hanger, la puissance créatrice de Steve McQueen se réduit à chaque film comme peau de chagrin. Le poète s'est hollywoodisé, la banalité est à présent en vue. Voilà, enfin, à propos de Netflix, Jean-Luc Clairet lance un cri d'alarme, au secours. Après Bong Joon-ho, Alfonso Cuarón, l'ignoble Netflix me prive des frères Cohen. Mes metteurs en scène préférés désertent un à un les écrans. Cela s'apparente à un auto-harakiri du cinéma. Je prévois, ajoute Jean-Luc Clairet, pour mettre un baume sur ma tristesse infinie, un prochain repli sur ma cinémathèque perso. Je signale d'ailleurs que Roma, que vous n'avez pas vu, de Cuarón, Lion d'or à Venise, est sorti cette semaine sur Netflix. C'est vrai que ce mail de Jean-Luc Clairet rejoint beaucoup de messages que je reçois de fans de cinéma qui se sentent un peu dépossédés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les uns ou les autres, mais...
C'est une vraie question, de toute façon. Est-ce que ces films-là auraient existé sans Netflix? Alors là, dans le cas du film de Cuarón, c'est une exception. Le film avait été produit, il a été acheté par Netflix pour une diffusion plus large. Mais le prochain Guillermo del Toro, personne n'en voulait. Son Pinocchio sous le fascisme en comédie musicale, il n'y a que Netflix qui va mettre les moyens et l'argent. Je ne cherche pas à défendre la plateforme, mais on est face effectivement à des majors américaines qui veulent que Cuarón refasse Gravity 2, Gravity 3 et continue d'en vous voyez Sandra Bullock en l'air dans l'espace, et qui ne vont pas produire un film plus intime et plus personnel. Netflix n'est pas le seul responsable, il ne kidnappe pas les scénarios et les metteurs en scène à la sortie des studios, il leur offre la possibilité de faire des films qui ne sont pas acceptés par les majors et par la distribution traditionnelle, et ils mettent les moyens. C'est une malheureuse aussi conséquence du manque d'audace de certains studios américains.
Et on commence avec La Palme du Cœur, qui est aussi un film inter. D'ailleurs, c'est une affaire de famille du japonais Hirokazu Koreeda, les Shibata, une famille pauvre et asociale qui vit de petits larcins et s'entasse dans un espace réduit. Enfin, quand je dis réduit, c'est presque un placard. Recueille dans la rue une petite fille de 4 ans, une enfant battue, qui ressemble un peu à un oisillon tombé du nid, et qu'il ramène chez eux. Chez eux, il y a donc le père, le voleur à la tire, la mère. Il y a un fils de 12 ans, il y a une sœur aînée qui travaille dans un pipe chaud, une grand-mère qui touche une petite retraite. Famille plutôt sympathique et joyeuse pour un film tendre, dont on ne va pas révéler évidemment la seconde partie où rien n'est aussi simple que je viens de le dire. Film dont j'ai appris récemment qu'il déplaisait beaucoup d'ailleurs aux notables japonais qui voyaient une critique sociale qu'on a peut-être plus de mal, nous, à considérer. Film de 2 heures, donc je le disais, Palme d'Or, du Festival de Cannes. Sophie ?
C'est une belle palme, oui, c'est un film assez beau. Alors, en effet, c'est drôle parce que Koreeda a beaucoup dit que la colère était au départ de ce film-là. C'est vrai que s'il y a un mot qui ne me vient pas à l'esprit quand je pense au film de Koreeda, c'est le mot colère.
Oui, d'autant qu'il s'est même comparé, ou on l'a comparé à Ken Loach, Ken Loach nippon. Ce qui me paraît un peu excessif.
Oui, mais en même temps, et tu l'as dit dans la deuxième partie, il y a quelque chose de l'ordre d'une révolte sourde qui court et qui est très belle, parce que justement, elle est précédée de cette première partie, qui est en effet un hymne au bonheur. Cette famille qui est faite, comme tu l'as dit, de briques et de brocs, et qui construit de manière très innocente, sans trop s'en rendre compte, ce point d'équilibre merveilleux qui sera la félicité et la construction de cette famille, qui touche son apogée au moment de la scène où la grand-mère est sur la plage et regarde ça. Et ça, c'est vraiment d'une beauté extraordinaire, qui frise presque l'angélisme, sauf que c'est jamais angélique chez Koreeda, parce que ces personnages sont tellement vrais, ils sont tellement vivants, ils sont jamais réduits, soit à la pauvreté, soit à leur statut social, soit à une qualité, enfin ils sont beaucoup plus riches que ça, ce qui fait qu'on est toujours à la limite de l'angélisme, mais on n'est pas dans l'angélisme, on est dans quelque chose qui se déploie, qui est beaucoup plus beau. Mais la deuxième partie, sans en parler, elle donne tout à coup, en renversant le film, une force incroyable.
On pourrait la raconter, mais je trouve que c'est un peu dommage.
Il faut absolument pas raconter. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'était intéressant parce que tout à coup, là, les personnages, de par la situation, sont obligés de théoriser sur la fiction qu'ils ont vécue, en quelque sorte. Et ils parlent, ils commentent eux-mêmes ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été. Et c'est vachement intéressant, parce que notamment quand la femme, la mère, qui s'appelle Nobuyo, dit, parce qu'on lui dit, mais enfin, un enfant, il a besoin de sa mère. Et elle dit, ah, mais ça, c'est ce que les mères veulent croire. Et c'est vachement transgressif, ça, c'est vachement fort. Et tout le film, et du coup, se retourne à la lumière de ça. Et du coup, ça.
Et en plus, ils sont tous incroyablement bons. Enfin,
ils sont des acteurs géniaux.
Quel que soit leur âge et leur... alors.
Mais c'est quand même Kore-eda qui en fait des acteurs aussi grands et qui les fait basculer dans la méditation comme ça. Enfin,
c'est la preuve qu'il n'a pas épuisé le sujet de la famille, qui lui est cher. Xavier.
C'est une merveille, mais comme j'allais dire, presque tout le cinéma de Kore-eda, qui est vraiment un cinéaste que j'aime depuis ses débuts, et qui, tu as raison, qui semble, en tout cas en grande partie, on mettra pratiquement 8 films sur 10, fouiller toujours la thématique de la famille.
Ah oui.
Cette famille qui n'est pas une famille d'ADN, une famille de sang, mais une famille aussi possiblement d'adoption, de rencontre, d'affection mutuelle,
de
petites entourloupes aussi au bon sentiment. C'est un immense cinéaste parce qu'on a l'impression que son cinéma est très simple, que tout le monde pourrait le répliquer. Et en fait, quand on regarde la manière dont c'est fait, la manière dont il construit un cadre avec plusieurs plans à l'intérieur, cette bicoque LED évidemment parce qu'il y a une situation premier et puis il y a un personnage qui passe au deuxième plan et puis il y a un enfant qui ouvre un espèce de placard dans lequel il dort et qui amène et qui apporte encore quelque chose, un autre regard qui diffracte le bon sentiment. Le bon sentiment, il est coupé par le montage. C'est-à-dire que là où on va tomber dans la mévérerie, Sophie l'a très bien dit, on va le couper, mais sans cynisme, avec une vraie lucidité, de manière à ce que les personnages continuent d'exister dans le hors-champ, dans la suite de cette situation. C'est un cinéaste bouleversant, c'est un cinéaste très lucide. Je comprends que le Japon ne soit pas content de sa façon de dénoncer, entre guillemets, la vindique, le côté la famille, c'est la famille
l'ordre
de sang,
social,
l'ordre social, on n'y déroge pas. Alors que, évidemment, la réalité contredit tout cela.
Il n'a même pas été félicité par pays.
Non,
il a reçu la Palme d'Or à Cannes.
Mais en revanche, c'est son plus gros succès là-bas. Il a vraiment convoqué des millions de spectateurs qui ont adoré et c'est le plus beau démarrage en France d'une Palme d'Or depuis très longtemps, je crois depuis La Vie d'Adèle. Donc c'est un film universel, même s'il est terriblement nippon, mais qui nous dit des choses sur la famille, qui nous rassure, qui nous déculpabilise et qui le fait avec tellement d'intelligence, sans dogmatisme, avec une direction d'acteur. On va citer Lily Franchi, rien qu'un, qui est l'acteur, qui est le père qu'on avait déjà vu dans Tel père, tel fils, et qui à lui seul semble venir du cinéma italien et rayonne dans le cinéma japonais.
Charlotte, pardon, je t'interromps, mais je veux qu'on tous les films ce soir.
C'est un film qui est totalement habité par la grâce, mais ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est une grâce discrète. C'est-à-dire, il n'y a rien de tape à l'œil, il n'y a rien d'ostentatoire. Le film est traversé d'une grande douceur.
Mais comme tout le cinéma de Kore-eda.
Absolument, sauf que là, c'est peut-être porté à son sommet. Vous le disiez, c'est tous ces thèmes récurrents de la famille, la filiation, la transmission qu'il a déjà abordé dans ses films précédents. Mais là, il y a une espèce de concentré de ces thèmes obsessionnels de manière absolument magistrale. Moi, je voudrais ajouter aussi l'élégance formelle du film, c'est-à-dire qu'il y a l'élégance de la musique, de la lumière, il y a un travail sur la lumière qui est extrêmement précis puisqu'on traverse plusieurs saisons en fait, donc en fonction des saisons les visages vont plus ou moins s'illuminer. Et puis c'est vrai que sans révéler cette deuxième partie du film, il se révèle beaucoup plus subversif qu'il n'en avait l'air, et cette chronique douce amère familiale d'un premier temps se révèle du poil à gratter qu'on n'avait pas forcément vu venir, avec une émotion qui nous submerge. On a cité le comédien qui joue le père, mais la grand-mère aussi est absolument bouleversante,
qui est morte il y a quelques semaines,
qui est décédée malheureusement assez récemment. On le dit, c'est une palme du cœur, mais c'est aussi une palme de la raison, dans le sens où c'est un très très grand film.
Pierre.
C'est-à-dire que c'est du poil à gratter, il y en a toujours un peu chez Kore-eda, parce que le seul film vraiment raté, à mon avis, qu'il ait fait s'appelait Notre Petite Sœur, il y a quelques années, parce que précisément, là, il n'y avait que de la gentillesse, qu'une famille idyllique. Mais là...
Qui était une adaptation, hein, c'était un de ces rares scénarios non originaux.
D'accord, mais néanmoins, c'était pas très intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même sans raconter ce que vous ne voulez pas raconter et que nous ne raconterons pas...
Mais que tu aimerais bien, je ne vais pas raconter...
Mais même là, dans la première partie, d'ailleurs après, on voit que les liens de cette famille sont extrêmement troubles. C'est-à-dire que c'est aussi fondé sur l'intérêt qu'ils ont de vivre ensemble. La vieille dame va rançonner, pour avoir du fric.
L'argent est un lien.
C'est sûr, l'argent. La tendresse les lie, mais aussi l'intérêt. Alors, cela dit, Palme. Je suis d'accord, c'est une palme tout à fait méritée. Personnellement, je persiste à dire qu'il y avait quand même deux films qui le méritaient beaucoup plus. Et qui est Burning de Lee Chang-dong, et un film dont on va parler tout à l'heure qui le méritait aussi. Donc, palme, très bien, mais il y a mieux.
Pour une fois que depuis très longtemps, on commençait l'émission avec un éloge unanime d'un film.
Oui, et un éloge d'un film qui met en lumière aussi ce qu'on pourrait appeler les invisibles, qu'on voit jamais au Japon.
Il faut que tu mettes une nuance, tu vois, Pierrot.
Une petite
nuance.
Une
affaire de famille de Kore-eda, est-ce qu'il y a au Théâtre de l'Alliance Française des réactions sur ce film? Non. L'Eto, qui veut dire l'été en russe et qui était lui aussi en compétition à Cannes, c'est le film en noir et blanc de Kirill Serebrennikov. metteur en scène de théâtre, cinéaste, dont le fauteuil est, je vous le rappelle, resté vide pendant le festival. Il est en effet assigné à résidence en Russie par le régime de Poutine. Leto n'est pourtant pas un brûlot, c'est la biographie romancée du légendaire groupe de rock Kino à Leningrad pendant l'été 81, donc sous l'ère Brejnev. Victor Tsoï, qui est joué par l'acteur coréen Theo Yo, rencontre Mike Nomenko du groupe Zoo Park et sa copine Natalia, dont les souvenirs, d'ailleurs, je crois, ont inspiré plus ou moins ce film. Outre le triangle amoureux style Jules et Jim, on assiste à la création de la salle de concert Leningrad de Rock Club et à l'enregistrement du premier album de Kino à une époque où se passaient comme ça sous le boisseau les disques de Bowie ou de Dylan. Victor Tsoï allait mourir jeune à 28 ans en 90 dans un accident de voiture et devenir une icône nationale, prétexte pour montrer ce qu'était la scène underground sous la perestroïka. Film en noir et blanc, je le disais, qui a été très bien reçu, qui n'a pas eu en revanche de prix à
Cannes.
Xavier ?
Ah, bon, on va commencer par celui qui a des réserves, tant mieux ou tant pis, parce que comme ça on terminera sur une...
Après c'est unanime hein, sur ce film.
Et ben tant mieux, je suis ravi pour elle. Charlotte a parlé tout à l'heure de la modestie de la mise en scène de Kore-eda, c'est un mot même sous acide qu'on ne pourra pas prêter à la réalisation de Leto, qui veut toujours montrer qui est le maître à bord, le réalisateur, et qui, moi je trouve, voilà, alors effectivement exécute magistralement son récit, mais le vide de toute substance, à force de faire dans l'apparence, à force de faire dans le décorum. Moi, il y a un moment, je ne suis plus rentré du tout dans le film. Il crée, et de manière très récurrente et un peu systématique, des faux clips à l'intérieur du film qui mêlent des images de la réalité sur lesquelles il rajoute des coups de crayon, des esquisses comme ça. Et puis un personnage narrateur qui passe au milieu du cadre et qui nous dit « ceci n'a pas existé ». Ben oui, on s'en doute bien que ceci n'a pas existé. Une chorale qui se constitue spontanément dans un tramway de Leningrad, on pense bien que ça n'a pas existé. Merci beaucoup, monsieur.
Nous mais il y a de l'humour quand même.
Mais il y a de l'humour, mais c'est comme un 33 tours un peu rayé qu'on a trop passé, qu'on a trop... compassé. C'est-à-dire que moi, il y a un moment, je vois le systématisme de la mise en scène. C'est censé être, tu l'as dit, effectivement, une histoire de Jules et Jim. Le rôle de la femme n'est pas du tout écrit. C'est quand même un film de mec. Le mec ne sait pas écrire une nana. Il écrit bien les garçons, évidemment, dans leur rivalité, dans leur complicité, dans la manière dont ils vont s'entendre.
C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il ne sait pas décrire un personnage de femme.
Mais je me fous de sa sexualité, Pierre. Alors vraiment, alors bravo dans le genre, mais argument de merde. Là, tu viens franchement de décrocher le pompon de l'année. La dinde de Noël n'a qu'à bien se tenir.
Pas décrire un personnage de femme, elle est magnifique, cette femme.
D'autant que c'est elle, encore une fois, dont le livre a servi de point de départ au film.
Eh ben, c'est encore plus insultant et je peux pas citer le nombre de metteurs en scène homosexuels qui ont très bien écrit des femmes, je te le rappelle. Mais voilà, moi, il y a un moment où le film tourne sur lui-même et cyclique, ne m'apprend pas grand-chose.
Je suis pas sûr que le noir et blanc pendant 2h06 soit une très bonne idée. Je pense
La steadicam qui passe partout, vous avez cette caméra à l'épaule extrêmement fluide qui passe dans les pieds, sous les fauteuils, dans les rangées, derrière. Mais bonhomme, mais c'est pas un point de vue, c'est de la décoration, c'est du Stéphane Plaza, quoi. Enfin, t'es en train de nous montrer comment est fait le décor, mais je m'en fous. Cherche une émotion et je ne la trouve pas, quoi. C'est vraiment l'URSS pour les nuls.
Non. Alors, Pierre, tu es un peu le représentant quand même de l'Est à cette tribune.
Oui, c'est vrai, d'accord. Ah, ben moi, je trouve ça absolument magnifique, mais Serebrennikov.
Pas uniquement parce que c'est russe.
Non, pas parce que c'est russe, mais parce que c'est Serebrennikov. Donc, j'avais adoré, moi, le précédent film qui était sorti, qui s'appelait Le Disciple, qui était formidable aussi.
Qui était déjà pas subtil, hein.
Mais c'était pas subtil, mais c'était d'une force absolument incroyable sur le système russe et l'héritage du stalinisme, enfin bon, etc. On parle de celui-là. Celui-là est absolument magnifique. Il y a une invention à chaque plan. C'est d'un lyrisme extraordinaire, d'une jeunesse folle. Il a réussi à retrouver exactement le sentiment que les rockers pouvaient avoir à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils découvraient en retard, puisque c'était de l'Occident, ils découvrent ça. Et les fantasmes que tu n'aimes pas sont faits, mais avec une intelligence, un brio, un humour absolu.
Mais quelle intelligence ? Explique-moi, parce que moi j'ai pas compris.
Mais c'est drôle, pour commencer, c'est drôle. Tous ces gens qui répètent en effet des paroles de chansons, et il y a toujours le narrateur qui est là pour dire, ça aurait pu se passer, ça aurait été magnifique si ça s'était passé comme ça en Russie.
Mais quatre fois,
ça ne pouvait pas
se passer.
C'est absolument splendide. L'histoire d'amour, cette espèce de ménage à trois est très touchante. Le rôle de la femme, excuse-moi, elle est très importante parce que c'est elle qui choisit exactement ce qu'elle va faire, quand elle veut le faire et quand elle le fait. Et donc, c'est un
film qu'il n'était pas écrit. J'ai pas dit qu'il n'était pas important.
Mais il est très bien écrit puisque il me semble avoir vu.
On va demander aux femmes ce qu'elles en pensent.
Ben voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui aurait mérité, par sa force, son enthousiasme, d'être au palmarès très haut.
Charlotte.
Ben moi, je rejoins plutôt Xavier, dans le sens où, alors, il y a quelque chose que je trouve très beau et réussi dans le film, c'est que il nous montre cette parenthèse enchantée des prémices de la perestroïka avec cette jeunesse qui aspire
oui,
à beaucoup
les,
de.
C'est les prémices, c'est très important.
Oui, on n'est pas encore voilà. dedans. C'est-à-dire qu'il y a encore un régime extrêmement autoritaire et répressif. Donc tout ça se fait sous le manteau, interdit, en cachette. Ce sont des concerts dans des caves ou dans des endroits secrets. Donc il y a l'euphorie de cette jeunesse qui aspire à plus de liberté. Et en même temps, je trouve que Kirill Serebrennikov porte dessus un regard très mélancolique, c'est-à-dire comme s'il savait déjà que ça n'était qu'une parenthèse, que c'est juste un temps et qu'il va regretter ce temps-là très vite. Donc l'euphorie est systématiquement contrebalancée dans les scènes par un sentiment mélancolique, certainement plus que nostalgique. Mais donc voilà, on est dans cet entre-deux et en ça, je trouve le film assez beau et assez émouvant. Maintenant, il est quand même long, je le trouve très répétitif dans son dispositif. C'est-à-dire que faut quand même vraiment aimer la musique russe post-rock des débuts de la perestroïka. Et c'est quand même un peu... Enfin, moi, cette musique me casse les oreilles, quoi. Je trouve ça très pénible à écouter. Donc, même si je suis avec eux dans
Mira,
l'euphorie...
Mira l'écoute beaucoup, hein.
Ouais, mais je trouve que sur deux heures, il y a un systématisme de narration qui est, au bout d'un moment, un petit peu lassant. Et l'émotion, je ne la trouve plus non plus.
Sophie, alors,
moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai été bouleversée par le film. Je me fous complètement du rock de Leningrad. Ça m'intéresse pas du tout. Et pourtant,
bah,
le film.
C'est quand même un sujet.
Ah bah, je suis désolée, mais moi, ça, je m'en tape complètement, ça ne m'intéresse pas. Et le film m'a séduite, m'a happée. Je trouve pas du tout qu'on assiste à des concerts répétitifs ou que ça se ressemble. Mais au contraire, ils sont souvent à la guitare devant la plage en train de chanter les chansons. C'est pas du tout pesant. Les concerts, c'est très rigolo parce que ça montre très bien comment on regarde un concert à cette époque en Russie. C'est quand même assez hilarant.
Oui, mais
de voir qu'on n'a même pas le droit de se mettre
debout. On a compris, quoi.
On le montre une fois. D'accord, mais il faut bien montrer cette jeunesse. Et ce que tu dis, en revanche, Charlotte est très juste, il y a toujours cette mélancolie qui est là parce que c'est aussi un film sur une jeunesse qui passe et sur la liberté qu'il faut arracher. Mais c'est ça qui est beau, c'est un film sur la liberté qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut prendre quoi qu'il arrive. Elle est liée à la jeunesse. Et ces scènes de rêve que tu as l'air d'aimer, Xavier, moi je les trouve magnifiques parce que c'est des scènes de liberté. Cette liberté-là, eh ben, si on ne peut pas la prendre, eh ben, en attendant, on la rêve. C'est pour ça que je parlais d'un inconscient qui déborde comme ça le cadre. Je trouve que ça nourrit le film de manière poétique, de manière. Moi j'ai été. Mais enthousiasmé par le film que je trouve d'une délicatesse en plus entre les personnages. Il y a une douceur, c'est rare dans un film sur le rock. On est dans la douceur permanente entre les personnages.
Mais c'est pour ça que tu m'étonnes en disant que tout t'intéresse sauf le rock.
Mais parce que le rock est traité, je trouve,
comme un prétexte. Dans le cœur Aida, tout me plaît.
Mais non, c'est un prétexte qu'on a pendant deux heures dans les oreilles.
Ce que je veux dire, c'est que si on s'intéresse au rock, le film est passionnant et il faut aller le voir comme une reconstitution de ces années-là pré-perestroïka. Mais si on ne s'intéresse pas au rock, franchement, on peut y aller quand même parce que c'est un film sur la jeunesse, la liberté avant toute chose.
L'étau de Serebrennikov, qui, je vous le rappelle encore une fois, n'a pas voix au chapitre, puisqu'il ne peut ni parler, ni répondre aux questions.
Et son procès est en ce
absolument.
Moment.
Absolument.
Et il risque 30
j'en profite d'ailleurs quand même pour vous rappeler, collègue Sentsov, qui lui a cessé sa grève de la faim le 6 octobre dernier, croupit toujours depuis 2015 dans un camp en Sibérie, condamné, je vous le rappelle, à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes, qui sont évidemment de notions totalement inventées pour accabler davantage ce cinéaste Oleg Sentsov. Bref, l'étau, donc, c'est Serebrennikov. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, le micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce film, où j'ai trouvé une énergie vitale très forte, très puissante, et avec un mélange de mélancolie, j'ai trouvé qu'il y avait un vertige entre ces deux pôles de l'énergie vitale et d'un sentiment d'un aspect fugitif de la vie.
Merci pour cette appréciation et ce commentaire sur l'étau. Pupille, le deuxième film après Elle l'adore de Jeanne Herry, la fille de Miu Miu et Julien Clerc, avec Élodie Boucher, Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch, Olivia Côte. Et Miu Miu, le film s'ouvre dans un hôpital d'une ville du Finistère, où une étudiante vient en urgence accoucher sous X. Et le film va raconter, décrire de manière très précise ce qui va se passer entre la naissance de ce bébé, Théo, et son adoption, avec Gilles Lelouch, en période de pleine métamorphose, je ne sais pas où il va s'arrêter, dans le rôle de l'assistant familial chargé, pendant cet intermède, de materner, de nourrir, de changer, d'élever ce bébé, de lui parler, J'ai jamais vu un film où on racontait à quel point il était important de parler au nouveau-né, avec Élodie Boucher qui, elle, a une fonction très intéressante dans le film, puisqu'elle est audio-descriptrice dans un théâtre, dans le rôle de la mère monoparentale susceptible, on va pas dire plus, hein, Pierre.
Dès la première scène, on le sait, Jérôme.
Alors, on peut très bien aussi enlever tous les flashbacks, enlever tout dans le film. Voilà, donc susceptible d'adopter Théo. Et dans ce service de l'aide sociale à l'enfance, il y a aussi Miu Miu, Sandrine Kiberlin, qui se livre, mais uniquement pour Xavier, le herpeur, à une formidable dégustation de dragibus à l'aveugle.
À l'aveugle, elle reconnaît l'aveugle. Le parfum et la couleur du dragibus.
Ça, tu pourrais pas, ça.
J'ai essayé, je suis en train de m'entraîner et je ne suis pas sûr de ne pas y arriver.
Avec
2019 pourrait être l'année.
Mais j'ai pensé à toi, tu vois, pendant cette
moi
scène.
Aussi. Je pense que Sandrine a pensé à moi en faisant ça.
Pas au moment de l'accouchement, mais au moment de la, tu vois, au moment de la, avec Clotilde Moulet, que j'aime beaucoup. Bref, tout un petit groupe qui n'a qu'un objectif, offrir un avenir aux nouveau-nés. Film, évidemment, très instructif. Je crois qu'on n'a jamais raconté toutes les étapes entre la naissance et l'adoption. Et en ce qui me concerne, que j'ai trouvé absolument bouleversant. Pierre.
Bouleversant, oui. Enfin, en tout cas, passionnant par la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que c'est presque un documentaire. Tu l'as dit, presque.
Non, justement.
Façon. Mais oui.
J'aime pas qu'on dise ça parce
que... Oui, parce que c'est totalement fictionnel. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont elle est arrivée à écrire son scénario en pistes comme ça qui se croisent. Donc c'est très écrit, c'est très joliment tourné, c'est très joliment joué en quelque sorte. Et voilà, évidemment, il y a cette scène absolument formidable où le Gilles Lellouche parle à ce bébé, ce souci. Moi, j'ai jamais vu une
c'est
scène
incroyable.
D'une tendresse, d'une comme ça, d'une...
Même la manière dont il le touche.
Oui, le touche, il lui parle, il s'inquiète. C'est un homme absolument formidable, le personnage. Et Gilles Lellouche et le personnage qu'il joue. C'est extraordinaire. Voilà, je suis pas bouleversé, mais je suis constamment... intéressé, voilà. C'est...
Sophie.
Ah oui, c'est intéressant, c'est bouleversant. Moi, j'ai été bouleversée. Et en effet, le film est extrêmement bien écrit, parce qu'elle arrive
moi, à la fin,
à
j'ai
tisser...
presque écrasé une larme, je vous le dis.
Ah mais moi aussi, moi j'ai pleuré. Hein. Mais enfin, moi, je pleure souvent beaucoup. Non, mais c'est très émouvant. Mais en étant joyeux, en étant merveilleux. Enfin, oui. C'est une belle histoire. C'est pas quelque chose qui fait pleurer parce que ce serait triste. C'est vraiment une histoire qui est émouvante parce qu'elle parle de la vie, hein, parce qu'elle parle de ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Mais je trouve que l'écriture de ce film pour arriver à tisser ensemble. Des destins en route comme ça, aussi différents, aussi multiples, avec des échelles différentes, parce qu'à la fois il y a cet enfant qui va avoir 3 mois, enfin qui est tout petit, et à la fois il y a 8 ans qui remontent, enfin qui sont dans la préhistoire de la vie d'Élodie Boucher, enfin on remonte à sa quête de mère qu'il voulait adopter, tout ce qui se met en route, enfin elle arrive à expliquer tout ça par le truchement d'ailleurs de Clotilde Mollet, tu en parlais, de Mathilde, qui commence par expliquer exactement tout ce qui va se passer, et sans que ce soit jamais didactique, tout ça est pris en charge par les acteurs, en effet c'est pas du tout un documentaire parce que c'est extrêmement incarné, c'est absolument formidable la façon
et puis, tous
dont
ces
elle montre
gens dont
tout,
on ne parle jamais, qui
travaillent
dans l'ombre,
qui sont,
au bonheur d'un enfant, c'est quand même quelque chose
qui met en mouvement le destin
mal.
De cet enfant qui va avoir droit à de l'amour, c'est quand même extraordinaire, mais surtout elle ne perd pas de vue le spectacle extraordinaire qu'est ce bébé, enfin il y en a plusieurs, mais et le bébé, parce que ce petit corps à la fois, comment dire, sans défense et en même temps d'une énergie folle qui est à la fois complètement symbolique parce qu'on y projette plein de choses et puis qui en même temps est très concret, très charnel, elle montre à quel point c'est beau, à quel point il faut le regarder, il ne faut pas avoir peur de le regarder, c'est pas mièvre, c'est vivant, c'est...
Je ne sais pas comment ils ont fait, parce que le bébé est presque mutique, à un moment donné...
Oui, il fait la tronche même, hein.
oui,
quand il a un peu des problèmes au début.
On sent qu'il est...
Très concentré sur ce qui lui arrive.
D'avoir été abandonné,
c'est extraordinaire, la façon dont elle...
Il va s'animer.
Surtout, il n'y a quand même pas beaucoup de films sur les bébés dans le cinéma français. Bon, il y a eu 3 hommes et 1 couffin, mais ce n'était pas du tout la même chose. J'ai essayé de recenser les films sur les bébés. Il y a eu le documentaire de Thomas Balmès qui s'appelait Bébé, mais qui était un documentaire. Et franchement, ces histoires de bébés dans le cinéma français, on n'en voit jamais. C'est merveilleux. Enfin, ça irrigue un peu le cinéma, qui est toujours avec les mêmes histoires, les romances, les trucs, les policiers, tout ça. Bah, pour une fois, on nous dit, regardez les bébés, c'est pas mièvre, c'est formidable, c'est merveilleux, et cette histoire est merveilleuse.
Xavier.
Il faut reconnaître une chose à Jeanne-Henri, c'est qu'elle a tout bon là où elle aurait pu avoir tout faux.
Absolument.
C'est-à-dire que sur le papier c'était le dossier de l'écran, depuis l'arrivée de l'enfant, la mère qui n'en veut pas, l'assistante sociale, comment est-ce qu'on va l'adopter. Et par le truchement, d'abord effectivement de cette construction, cette déconstruction scénaristique, d'une intelligence absolue. Elle rend hommage à tous les corps de métier. Miu Miu, qui à un moment range les dossiers et dit « je suis contente de prendre ma retraite et d'avoir pu au moins faire adopter à un couple de garçons un petit bébé ». C'est-à-dire qu'il y a aussi cet hommage au militantisme, aux gens qui sont impliqués. Et c'est pas un film militant, mais c'est un film qui rend hommage effectivement à tous ces combats qui ont été menés dans l'ombre par des hommes et par des femmes, beaucoup, pour justement l'adoption, pour l'évolution des mentalités, pour l'évolution des mœurs. Elle aurait pu faire un film mièvre, un film dans la joie, parfois effectivement dans la douleur, de la difficulté, mais dont les résolutions ne sont pas naïves. Et puis, eh ben, je suis désolé, par rapport à Leto, elle sait écrire du romanesque dans les personnages. Oh. Eh ben ouais, je suis désolé Pierre, mais Élodie Boucher, on n'en a rien à faire qu'elle soit audio-descriptrice, et c'est passionnant, parce que justement, ça l'étoffe le personnage, ça l'harmonise, ça lui donne
là,
encore un autre.
Elle raconte une pièce de Tchekhov à des aveugles.
Et toutes ces petites choses, les dragibus, les histoires d'amour larvées, les désirs...
Il n'y a aucun dragibus dans Leto, par exemple.
Ah mais aucun. Aucun. En plus, en noir et blanc, c'est dommage. Le dragibus qui est bien, c'est la couleur. Et là, on se dit que oui, de temps en temps, c'est gratuit peut-être par rapport au sujet, mais c'est indispensable par rapport à l'implication du spectateur.
Elle adore son premier film était bien aussi.
Ah, mal, on l'avait défendu.
Elle est vachement bien. Ici,
elle est quand même douée,
cette
petite.
Elle est douée.
Et Pierre avait bougonné. Voilà, je me souviens très bien de l'émission. Voilà.
Oui, je n'ai pas aimé ça, tandis que là, elle est très en progrès.
Charlotte.
Non, mais il faudrait avoir un cœur de pierre ou ne pas avoir de cœur du tout.
Bien joué. Bien joué.
Pour ne pas être ému effectivement par le film, et Jérôme, si vous avez limite écrasé une petite larme, et ben moi je cache pas d'avoir été une véritable fontaine à la fin du film. Ben voilà,
c'est là faut. C'est ça qui est beau.
Non, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que effectivement, moi le film c'est très clairement aussi quand même un hommage aux services sociaux et à cette chaîne humaine qui se met en branle pour converger au destin, enfin avec un bébé d'une certaine manière. Ça, quand même, on peut penser à Réparer les vivants, qui avait à peu près aussi cette même structure de narration, à savoir ce film choral où on voit une chaîne humaine qui converge vers un même but. Réparer les vivants, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il s'agissait d'une greffe d'organes. Là, d'ailleurs, on parle de greffe à un moment donné aussi dans ce film, puisque faire adopter un nourrisson par une mère, on dit c'est une greffe, le mot est prononcé. Donc le film a un peu fait penser à ça. Je trouve que le film doit beaucoup aux comédiens qui sont tous d'une justesse incroyable.
Et Élodie Boucher.
Qui
est incroyable.
Qui vraiment, après le film d'Éric Zonka qu'on a vu cet été, qu'elle arrivait à presque sauver en deux scènes. Presque, j'ai dit presque. Là, elle illumine le film. Enfin, c'est vraiment une actrice que je suis ravie de retrouver plus fréquemment sur les écrans. Et jusqu'au second rôle, pour ceux qui aiment le théâtre, on reconnaît vraiment toute une flopée d'excellents comédiens de théâtre. Ils sont tous extrêmement justes. Après, ma petite réserve, et c'est vraiment une mini réserve, c'est que dans les dialogues, tout est extrêmement instructif. C'est vrai qu'on comprend tout de cette chaîne, mais
en même temps, tu vois, le rôle
c'est très documenté.
Le rôle de Gilles Lellouche, moi, je ne savais même pas qu'il existait. C'est instructif sans être non plus.
Elle s'en sort quand même.
Une leçon
elle s'en sort très bien parce que c'est bien écrit,
c'est
mais on est à la limite quand même du démonstratif.
Pupille, c'est donc le film de Jeannery. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, une réaction. Le micro vient vers vous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai vu effectivement le film. J'ai trouvé aussi ce qui était intéressant, c'est le parti pris en disant on ne cherche pas le bien des parents qui vont adopter, mais on cherche le bien de l'enfant. Et donc, je connaissais pas cette façon de faire et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et sinon, je suis un peu comme Charlotte en disant qu'il y avait un côté un peu instructif, c'est-à-dire de nous présenter effectivement comment ça se passait sans pour autant tomber dans le documentaire.
Merci pour votre intervention. Il y a une autre intervention sur ce film Pupille de Jeannery, ici au Théâtre de l'Alliance Française. Madame, bonsoir.
Oui, moi je trouverais aussi qu'il a un côté instructif. Il est très bien fait, moi, j'ai bien aimé le film, mais tous les personnages sont parfaits, on pourrait dire, à part qu'on leur a donné des petits défauts.
Vous voulez dire trop parfait, vous voulez dire ?
Un peu trop parfait, oui. Mais c'est quand même.
Je pense qu'effectivement,
on aimerait que dans la vie, ça se passe comme ça.
Auront la chance d'avoir Gilles Lellouche pour les. Avant d'être adopté pour les.
Il y a quand même cette femme qui cache sa grossesse pour ne justement pas heurter.
Oui.
Et là, on touche aussi à cette frontière entre l'intime et le professionnel, qui, sur un sujet pareil, est beaucoup plus fragile et beaucoup plus exposée que dans notre métier, par exemple, où on peut désinguer un film d'un Russe assigné sous résidence sans prendre de risque, à part se faire frapper par Pierre Murat.
Tu es plus sensible à la mise en scène, Xavier.
Allez,
je sais pas
avance,
ce qui se passe.
On a encore plein de films à voir ensemble. 3 ans après Arrête ton cinéma, eh bien, Diane Curis continue. Voici donc...
On ne pourra pas faire mieux, on va arrêter là.
On va arrêter là, oui.
Voici donc Ma mère est folle, avec Fanny Ardant et le chanteur Vianney, mais aussi Ariel Dombal, très très convaincante en femme richissime, Patrick Chenet, beaucoup moins en homo démodé, et Fanny Ardant, c'est Nina, la mère folle, de Baptiste, un architecte très sage, joué par le gentil Vianney, très gentil Vianney. Les deux sont fâchés depuis des lustres, ils vont se réconcilier. Allez, on va aller vite à Rotterdam, où Nina s'adonne au trafic de drogue. Et ben, en route, ils vont embarquer, parce que un petit réfugié de l'Est, parce qu'évidemment, c'est ce qu'il faut faire sur la route. Il faut toujours embarquer un petit réfugié
un gilet
de l'Est.
Et un petit réfugié. Voilà.
Et là, si on peut faire les deux ensemble, c'est pas mal. C'est un road movie, donc je sais pas si vous l'avez compris. Pourquoi tu ris ?
Non, rien.
Non, mais je peux pas résumer un film sans que tu rigoles. C'est donc Ma mère est folle. Pierre ?
Ben, c'est pas très bon. Non, mais c'est
Pourtant, il y a un réfugié de l'Est.
Ah oui, un réfugié de l'Est, mais il n'y a pas Serebrennikov à la mise en scène. Non, ben, c'est-à-dire que le début est véritablement catastrophique. C'est-à-dire, quand je dis le début, c'est une bonne demi-heure. C'est-à-dire que, non, mais quand les huissiers viennent, quand Fanny Ardant rencontre Ariel Dombal, qui est une caricature d'elle-même volontaire, mais enfin, tout de même, tout ça, lorsque Fanny Ardant, qui en fait beaucoup, rencontre Vianney, qui en fait pratiquement pas. Donc, il peut se passer dans ce trop et se passer un petit quelque chose.
C'est la première fois qu'il joue ou pas, Vianney ?
Oui. Ah oui. Et c'est.
Alors, voilà,
il y a quelques scènes entre la mère et le fils qui sont assez émouvantes. Mais c'est très raté parce que c'est une faute de rythme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où Diane Curis arrive à mettre une vraie fantaisie dans sa mise en scène.
Ni Fanny Ardant dans son rôle.
J'ai rarement vu un film qui était aussi peu à l'image de son héroïne. C'est-à-dire qu'on nous présente une femme qui est fantasque, qui est pétillante, qui est un peu exubérante, une gentille folle, quoi, un peu dingue, et très audacieuse et courageuse, voilà. Et rigolote comme tout, très libre. Mais dans un film terriblement convenu, plan-plan, c'est pas du tout à l'image de cette héroïne. Tout est sage, tout est plat. Et c'est vrai que face à elle, Vianney, il est peut-être chanteur, mais alors acteur, ça reste encore à prouver, parce qu'il est totalement transparent, incolore, inodore. Enfin, ça ne marche pas du tout. Moi, je trouve ça assez embarrassant. Et contrairement à vous, moi, Ariel Dombal, qui assume à ce point la fantaisie de ce qu'elle est dans la vie, c'est presque celle qui m'a le plus fait rire, en fait. Bah, c'est une caricature, quoi. Elle l'assume.
Ah, oui, on va faire vite. Oui, bon, de toute façon, voilà. C'est un film qui passe son temps à contrarier son cahier des charges. Le titre, c'est Ma mère est folle. Le film est d'une sagesse improbable. Mais vraiment, c'est un road movie. Ça n'avance jamais. Mais jamais. Ça se veut moderne parce qu'on a Patrick Chenet en homo se découvrant à la cinquantaine. Ah. Et c'est un film, mais vieillot comme c'est pas possible de l'être. Donc c'est quand même très étrange cet effet de contraire entre ce que le scénario et les promesses du scénario devraient apporter à l'écran.
Et la peinture des personnages.
Et le fait que Diane Curis, absolument, aille au contraire. Moi, il n'y a que Ariel Dombal qui planque des liasses d'argent dans les livres et qui oublie le titre des livres et qui passe son temps à défaire sa bibliothèque pour trouver ses liasses. Moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé un peu. Je faisais un peu ce que je faisais effectivement quand j'étais petit. Mais.
Avec des billets de 500
ouais,
euros
ouais, non, mais c'était nos Monopoly que je planquais. Je pensais que ça allait m'apporter fortune plus tard.
Sophie ?
Oui, c'est plan-plan, c'est vieillot, c'est pas bien. Mais moi, Fanny Ardant, je la trouve extraordinaire.
On l'aime tous,
oui. Et rien que pour le plaisir de la voir. Non, je suis désolée, mais elle est merveilleuse, elle est belle, elle est pleine de charme. J'ai été sous le charme de son personnage, même. Parce que même si on l'a déjà vu ça 1000 fois, je suis d'accord, le film vaut rien. Mais elle, le plaisir que j'ai à la voir, et je ne peux pas le nier, je l'ai ressenti, Jérôme, ne me regarde pas comme
non,
ça.
Non, mais pas ça, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont peut-être aller voir les films, et donc...
Mais s'ils ont envie, d'aller voir Fanny Ardant...
Je crois qu'il est déjà dans quasiment plus aucune salle parisienne.
Voilà, comme ça, c'est réglé.
Ah bon, bah alors...
Mais s'ils aiment Fanny Ardant, ils ont le droit d'y aller, quand même.
Ma mère est folle, Diane Curis, non, personne n'ose intervenir, non. Allez, on va aller vite, je le disais, parce que, il y a encore Les Confins du Monde de Guillaume Niclou, qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et qui se déroule pendant la guerre d'Indochine. Le soldat Robert Tassen, qui est Gaspard Ulliel, est le seul rescapé d'un massacre où son unité a été décimée, et où son frère a péri sous ses yeux. Massacre qui marque en mars 45 la riposte japonaise à la reprise en main du territoire par les Français. Robert dont on suit la longue marche dans la jungle, n'a qu'une idée, se venger. Et sur son chemin, qui ressemble d'ailleurs plutôt à un enlisement, il va rencontrer l'écrivain Saint-Onge, qui est joué par Gérard Depardieu, un autre soldat, qui est Guillaume Gouix, qui rejoint son bataillon, et une prostituée indochinoise, Mai, qui est jouée par Lang Ketran, dont il tombe amoureux. 1h43, un film que j'aurais du mal à définir, entre film de guerre, film très psychologique. Xavier ?
Mais c'est déjà une des qualités du film, parce qu'il y a même un côté western, territoire.
Absolument, il y a du western aussi.
Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose de l'utilisation, quand vous faisiez le western, du paysage contemplatif, vertigineux, dans lequel on se perd évidemment complètement, avec ce personnage qui se perd lui-même d'ailleurs dans les limbes de sa vengeance, et qui va peut-être apprendre ou pas à retarder celle-ci. C'est un film passionnant. Dire qu'il est complètement accompli serait mentir aux auditeurs, mais dire que c'est une expérience de cinéma cohérente, intelligente, qui repose vraiment sur le cinéma et beaucoup plus que sur le scénario, en ces temps de frilosité d'auteur, il y a que Nick Lou qui fasse ça, il le fait bien et il y a une chose qu'il est le seul à faire, c'est diriger Depardieu avec une telle grâce, il est beau Depardieu chez lui, il est sensuel.
Et Huliel est très bien.
Mais Huliel, oui, c'est formidable. Très bien, mais ça fait 4-5 films qu'on retrouve effectivement Depardieu sous la caméra de Nick Lou et qu'à chaque fois, c'est... étonnant.
Le couple qu'il faisait dans le dernier,
Happy Love,
qui était bouleversant même.
Ouais. Et un qui n'était sorti que sur Internet, où il était perdu dans la forêt, où il rencontrait Swan Harlow, il était magnifique.
Sophie ?
Oui, moi je trouve le film très fort. C'est vraiment au cœur des ténèbres, avec toutes les références que ça a derrière, mais je trouve que c'est un film, sans doute le film le plus personnel.
C'est un peu de Schoenderfer, mais...
Oui, il y a Schoenderfer, il y a Coppola, il y a Conrad, il y a beaucoup de choses, mais c'est le film de Nick Lou le plus personnel, je trouve. Mmh. Et on sent qu'il est là, après tous les films qu'il a fait avant, pour en arriver à ce film-là, et sans doute parce qu'il a réussi à montrer ce cheminement, enfin cette espèce de reconquête de son humanité, à partir d'une expérience physique de l'horreur, et ça c'est très fort dans le film, ça pose le film. Et cette expérience physique de l'horreur qui est au début, qui est un baptême initial du film, il oblige le spectateur à le partager, ce baptême-là. Et ça, c'est très très fort, parce que filmer la violence comme il la filme, filmer la barbarie des hommes comme il la filme, soit on tombe dans l'obscénité, soit on tombe dans l'esthétisme, là, il la montre, c'est dur, c'est une épreuve, mais c'est à partir de là que le film se déploie, et c'est pas pour rien qu'on cite Saint-Augustin, c'est vraiment une quête métaphysique. Quoi.
Sans avoir pour autant les moyens de Coppola non plus.
Le film, je trouve, est très impressionnant. Alors, faux film de guerre, c'est plus effectivement une quête personnelle, intime, quasi surnaturelle, parce que le film fait des allers-retours constamment entre des scènes extrêmement réalistes et un domaine beaucoup plus onirique. Je trouve qu'il y a un montage de la musique et des images extrêmement fort. Le film, c'est sûr, c'est poisseux, c'est violent, mais il est envoûtant, il est fascinant. Moi, je trouve que c'est un des films français les plus intéressants de l'année. Et vous le disiez, Depardieu, il est sublime. Gaspard Huliel, on l'a quand même rarement vu aussi dense. Et avec une dimension aussi, j'allais dire, érogène, mais disons érotique de la guerre, puisque la violence et le conflit sont sans arrêt filmés en parallèle au corps, au sexe, à l'amour assez brutal. Et c'est vraiment un film passionnant.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un des grands films français de l'année pour moi, très romanesque, extrêmement romanesque au bon sens du terme. Il n'y a pas des borborismes que l'on entend quelquefois dans certains cinémas actuellement. C'est un dialogue très écrit, très littéraire, mais très beau, admirablement joué. Les scènes qui réunissent Gérard Depardieu à Gaspard Huliel sont formidables, et Depardieu est génial, là encore.
Un monologue sur le deuil qui est bouleversant dit par Depardieu.
Et Gaspard Huliel échappe définitivement, on le savait depuis quelques films, mais vraiment au rôle de beau mec, il est très beau, mais c'est un très très grand...
Il prend de l'étoffe, il est
passionnant, il est bouleversant là, dans ce film. Et le film est brutal, mais très beau et très puissant, vraiment.
Les confins du monde, c'est Guillaume Nick Lou, j'avais inscrit aussi Marche ou crève, premier film ouvertement autobiographique, et tourné en Super 16 de la photographe Margot Bonhomme avec Diane Rouxel, Cédric Kahn et Jeanne Cohen-Dee, une maison dans le Vercors, la mère est partie, ou plutôt elle s'est sauvée, elle a laissé le père, qui est un ancien alpiniste joué par Cédric Kahn, elle lui a laissé le soin de s'occuper à plein temps de leur fille aînée Manon, atteinte d'un très lourd handicap physique et mental, et la fille cadette, c'est Elisa, donc Diane Rouxel, a fait le choix de rester pour aider et pour soulager son père. Manon, et ça, je pense que Charlotte va me suivre, c'est la comédienne de théâtre Jeanne Cohen-Dee, qui est stupéfiante dans sa manière de faire les gestes, d'exprimer la souffrance de cette handicapée, sans que ça soit jamais ni une caricature, ni gênant. Ça pourrait l'être.
C'est stupéfiant.
Elle est et incroyable.
Moi, je crois que je n'ai jamais vu un comédien ou une comédienne incarner à ce point, en tout cas au cinéma, une personne handicapée et physique et mentale,
lourd handicap,
très très lourd, sans que jamais ça soit embarrassant ou gênant. C'est pour moi la grande révélation vraiment peut-être de cette année de cinéma. Retenez ce nom, Jeanne Cohen-Di, elle est démente.
Alors nous on est habitués au théâtre à la voir, oui, parce qu'elle a, elle a une très très belle, un très beau parcours au théâtre, mais au cinéma, c'est vrai que c'est la première fois. Elle a dépassé, d'ailleurs dit sa réalisatrice Margot Bonhomme, elle a dépassé ce que j'avais imaginé possible. Pierre, quelques mots, parce que là, alors,
vraiment, c'est un très beau film. Ce qui frappe surtout, c'est la juste distance qu'elle réussit à chaque instant à maintenir. C'est-à-dire que c'est sur le fil, mais c'est jamais justement ni gênant, ni trop. C'est extrêmement juste, très effrayant, très touchant, très humain. Et les comédiens, Cédric Kahn est très
et
bien.
Tous, hein, et Diane Rouxel, elle est formidable aussi, absolument.
Donc c'est vraiment
et un avec film un épilogue qui est d'un fatalisme un peu triste, Sophie.
Moi, je suis un peu réservée sur le film, mais je me sens un peu embarrassée d'en parler d'ailleurs, parce qu'effectivement, il s'agit d'un film, mais il s'agit d'un sujet très particulier. Je me demande si
c'est très personnel.
Très personnel, et je ne suis pas non plus forcément habilitée à juger de ça, mais cinématographiquement, je pense que le sujet en fait s'impose, résiste à la fiction. Je pense que c'est un sujet que le documentaire seul peut évoquer.
Ah, je suis pas du tout d'accord.
Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et chaque fois qu'elle essaie d'aller dans la fiction, et quand je parle de fiction, je ne parle pas d'inventer, je parle de reconstituer les choses. Eh bien, je trouve que le film ne marche pas. Je trouve la scène du défilé, par exemple, elle ne marche pas. Et pourtant, c'est une scène très importante parce qu'on la retrouve à la fin. Je trouve que ça fonctionne pas bien. Je suis d'accord avec vous, Jeanne Cohen-Di. Elle est à la fois formidable et en même temps, moi, je regrette. Je trouve que là, on est dans quelque chose qui ressemble à une imitation.
Si les gens ne savent pas qu'elle est comédienne.
Eh bien, moi, je ne savais pas. J'ai regardé le film, je ne savais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est une comédienne. Et ça ne me gêne pas, à la limite. Tu vois, ce n'est pas le problème. Mais je n'ai pas été touchée. Alors que c'est un film qui aurait dû me bouleverser.
Mais pas forcément, parce que c'est un film qui peut t'énerver aussi. Oui, c'est-à-dire que ce que ressent cette sœur qui n'en peut plus, la jeune sœur, de s'occuper de sa sœur handicapée, on le ressent en tant que spectateur.
Tout ce qu'elle veut dire.
Cette exaspération, cette lassitude, cette dureté.
Bien sûr, mais tout ça, tout est bien fait. Mais je trouve que ça ne marche pas très bien. Et en même temps, c'est une question que je pose. Hein. Est-ce que c'est réductif
c'est
à la fiction
droit,
et c'est surtout une question.
Si vous voulez qu'on dise un tout petit mot d'Astérix.
En deux mots, elle réussit très bien le réalisme, effectivement, le quotidien de cette famille. Mais je trouve, comme Sophie, elle échoue à faire rentrer toute la psychologie du rejet, de la détestation et de la haine de soi-même parce que elle n'arrive plus à supporter sa sœur. Et ça, malheureusement, c'est bâti avec beaucoup de lourdeur.
Marche ou crève, pas d'accord avec vous du tout, non, de Margot Bonhomme. Allez, une poignée de minutes, mais vraiment, petite poignée de minutes, les fêtes arrivent. Astérix, le secret de la potion magique, le film d'animation en 3D de Louis Clichy et Alexandre Astier, qui va, à mon avis, faire le plein pendant les fêtes, avec les voix de Clavier pour Astérix, de Guillaume Briat pour Obélix, de Bernard Allan pour Panoramix, de Daniel Mesguich pour Sulfurix, sans oublier les voix d'Alex Lutz, d'Elise Moon et de notre cher François Morel. Est-ce qu'il faut aller voir Astérix ?
C'est une histoire originale, c'est très drôle. Alexandre Astier a le sens de l'humour, du non-sens, du gag en cascade. La mise en scène est un petit peu sage, mais c'est vraiment de l'Astérix tel qu'on l'aime, avec de la parodie. Sulfurix est très drôle, on y va bien sûr.
Et avec toujours, il faut le dire quand même, bon, comment fabriquer cette potion magique sans notre druide. C'est ça
c'est
la question.
Oui, moi j'aime beaucoup le film, je le trouve très drôle. Je trouve qu'en plus, on retrouve tout ce qu'on aime chez Astérix, les Romains qui se font massacrer,
le est très bien dans le rôle.
Ouais, le forgeron, le poissonnier, enfin tous ces trucs-là, on retrouve tout ça. Et en même temps, c'est imbibé de l'époque, quoi. C'est aussi un truc sur le féminisme. Ça finit un peu par des blockbusters. Il y a un vrai regard sur le cinéma. Il y a même une allusion au Petit Quinquin ou à Mary Poppins. Enfin, il y a des choses comme ça. Et c'est à la fois très recyclé, moderne, enfin avec notre société d'aujourd'hui, et ça reste dans l'esprit de
Alors pour le scénario, il a emprunté un peu à tous les albums. Hein. Enfin,
c'est une histoire assez inédite quand même. Il a quand même pris
un peu dans chaque
Oui, on reconnaît le bouclier à Verne, on reconnaît le tour de Gaulle et tout ça.
C'est très drôle.
Alors moi, je n'ai rien retrouvé du tout de l'univers d'Astérix parce que je ne connais rien d'Astérix, ça ne m'intéresse pas du tout, ça n'est pas ma culture. Mais je connais comme ça parce que je suis française et que donc je sais qu'il faut résister à l'envahisseur et que tout se termine en X pour faire des jeux de mots. mot. Mais j'avoue n'avoir jamais, je crois, lu de ma vie un album. Bah si.
Ah, mais va
j'avoue. Voilà.
On va t'offrir ça pour Noël.
J'ai pas grandi avec Astérix.
Voilà le cadeau qu'il te faut.
Alors,
c'est
oui, mais je suis.
Tu n'as jamais ouvert un album?
Mais non, jamais. Je vous jure, Jérôme.
Bonne mine, ça te dit rien. Mais si, Balin, ça te dit rien.
Mais si, ça me dit parce que j'ai vu des films et j'ai vu des extraits en zappant à la télé. Mais
enfin, vous la condamnez là comme si c'était la
condamnée. On est très triste, on est
mal. Voilà.
On est surprise.
On est surprise, d'accord.
Je l'avoue, voilà.
Mais t'as peut-être raison, c'est pas grave, tu sais.
En découvrant le film, j'ai trouvé ça très chouette. C'est rigolo et assez féministe, effectivement.
Oui, c'est féministe,
ouais. Le dessin est plutôt joli. Je trouve que c'est pas agressif par rapport au dessin animé qu'on peut servir aux ados habituellement. Ça réunit toutes les générations.
C'est pour les
voilà,
petits
c'est
aussi,
marrant. Ouais. Maintenant,
c'est un peu gaulois, peut-être.
Non, mais enfin, je m'en fous un peu, quoi, surtout. Enfin, je veux dire, c'est pas un film qui... Bon, voilà, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais je trouve ça très bien fait, très rigolo. C'est pas vulgaire, c'est marrant et c'est féministe. Alors, youpi Astérix.
Pierre Muratix.
Ah, bah, alors, c'est féministe, c'est pas vulgaire. C'est un peu embêtant dans la première partie, moi, je trouve. Je trouve que les 25 dernières minutes sont fabuleuses.
T'as
poétiques.
Un rapport bizarre avec les films et le temps, toi.
Bah, parce que... oui. Bah, je suis désolé, mais.
Et l'animation.
Et l'animation.
Il faut sortir de la salle au bout de 40 minutes. Il rentrait à la 32e minute.
Je m'embête un peu pendant trois quarts d'heure et brusquement, ça commence à m'intéresser. Je regarde l'heure en disant, ah ben tiens, il y a une heure de passé, il reste plus que 25 minutes. Et ces 25 minutes sont très bien. Voilà, c'est comme ça que... Bon. Voilà.
On t'appellera peine à jouer que
c'est... c'est comme ça. Mais c'est un petit peu mou au point de vue animation, vous pensez pas?
Oui,
on s'est d'accord.
Astérix, le secret de la potion magique. Allez, avant les conseils, et pour la dernière fois, je vous propose de voter pour le prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Vous m'envoyez, s'il vous plaît, sur une carte postale au Masque et la Plume, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, ou par courriel sur le site de l'émission, à la rubrique courrier, tout simplement, pour me dire le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2018, et cela avant le 27 décembre. Et nous fêterons vos résultats en début d'année. Allez, très rapidement, parce que le temps est passé trop vite. Pierre, un conseil?
Alors un bouquin que j'ai pas apporté parce qu'il est un peu lourd, mais il est formidable, c'est l'encyclopédie du film noir de Patrick Brion. Qui est formidable. Oui. Patrick Brion, on sait qui c'est, c'est le cinéma
livre,
de minuit. C'est un très très beau livre. Alors c'est sur le film noir américain, il y a tout. Il y a absolument tout. Alors attention, ça s'arrête en 1960. C'est de 1912 à 1960, donc il y a un second tome qui est prévu bientôt. Et là, vous avez tout. Tous les films noirs racontés, illustrés, critiqués. C'est une somme, c'est absolument formidable.
Avec
c'est
plein qu'on ne connaît pas, évidemment.
Oui, il y a des tas de films qu'on ne connaît pas. Et c'est aux éditions Télémac.
Charlotte.
Bien, puisqu'on parlait en début d'émission de Netflix, moi, mon coup de cœur, c'est une plateforme VOD, mais de films d'auteurs qui s'appelle la Cinéthèque, qui a été lancée il y a quelques années par Laurent Cantès, Cédric Lapiche et Pascal Ferrand. On y trouve des grands classiques, c'est sans abonnement, et tous les mois, vous avez droit à 10 films pour 2,99€. C'est les fêtes de fin d'année, au mois de décembre, enfance et cinéma, alors les classiques, les 400 coups, Podane, le voleur de bicyclette, mais aussi des films de Bill Douglas et d'autres. C'est génial à voir ou revoir.
Xavier,
un tout petit peu d'avance. Le film sortira le 26 décembre, mais c'est le plus beau film d'animation de l'année. Mirai, ma petite sœur de Hosoda. Superbe petite animation. Kun, un petit garçon, voit sa mère revenir dans la maternité avec une petite sœur qu'il déteste tout de suite. Et il va apprendre, évidemment, grâce à quelques fantômes du futur, à se réconcilier avec elle, avec lui-même, et peut-être atténuer sa peur de grandir. C'est sublime.
Y a Gilles Lelouch.
Mirai, non. 26 décembre, allez-y, c'est tellement beau que...
Sophie.
Mirai, ma petite sœur.
Spider-Man.
C'est bien.
De Peter Ramsey, de Bob Perchichetti et de Rodney Rothman, c'est formidable. C'est un inspiré du comics de 2011. C'est extraordinaire. C'est un film formidable. C'est un film d'animation. Donc je reste dans les films d'animation et c'est vraiment très très bien.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Charlotte Lipinska, Pierre Murat et Xavier Le Herpeur, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au théâtre de l'Alliance française, à la technique, et je les remercie, Marie Le Peintre, Nicolas Depagraf et Pierre-Henri. La réalisation était de Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu ici même, au Théâtre de l'Alliance Française, au 101 boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement à Paris, le jeudi 20 décembre, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.